On va commencer avec un petit peu de retard cette séance du Conseil municipal. Donc vous avez reçu une convocation en date du 21 mars. Et ce soir, sur le nombre de conseillers en exercice, c'est-à-dire 27, il y en a 25 présents parce qu'il y a, de nouveau un absent supplémentaire par rapport à mon dossier. Donc, il y a deux absents ce soir. Il y a Sylviane Grosset-Jana qui va donner son pouvoir à Lionel Burille et Micheline Carpano qui va donner son pouvoir à Pierrette Morand. Alors, un secrétaire de séance, s'il vous plaît, qui veut bien assurer la fonction. Catherine Perret, merci. Alors, la séance est ouverte et il est 19h45. Alors, l'état civil, les naissances, le 28 février à Sallanches, Solal Courtet, et le 28 février à Sallanches, Maïwenn Delumeau. Nous adressons tous nos voeux de bienvenue à ces nouveaux-nés et tous nos voeux de bonheur aux heureux parents. Les mariages, le 17 mars, Nicolas Dagoneau et Magali Coutan. Le 24 mars, Mathieu Fernandez et Anne-Valérie Muscat. Et le 24 mars, Nicolas Chabrier et Laetitia Kretz. Donc nous adressons toutes nos félicitations et tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés. Les décès, le 27 février à Megève, Marcel Grillet. Le 1er mars à Megève, Hervé Michaud. Le 3 mars à Contamine-sur-Arve, Jean-Claude Périnet. Le 12 mars à Megève, Joseph Giguet-Gigueraz. Le 13 mars à Megève, Paul Fège. Le 13 mars à Megève, Suzanne Cavazzini, née désormais. Le 16 mars à Megève, Marie-Anaïs Muffat-Méridol, née Prévitali. Et le 25 mars à Chamonix, Roland Guédon. Donc nous adressons toutes nos condoléances et toute notre sympathie à toutes ces familles qui sont affectées par le décès d'un proche. Alors nous avons reçu des remerciements de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Megève, demi-quartier, Praz-sur-Arly, qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour leur aide et leur participation au week-end d'accueil des sapeurs-pompiers d'Oberstdorf, sur la période du 9 au 11 mars 2018. Des remerciements également du Lions Club Mont-Blanc qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour l'avoir autorisé à vendre du mimosa sur la place du village. Cela permet entre autres de venir en aide à des enfants en situation de handicap. Et la famille Périnet-Marquet qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour leur marque de sympathie et d'amitié exprimée lors du départ de Jean-Claude, et qui remercie également le service État civil pour son professionnalisme, sa disponibilité et son aide.
Oui, j'ai dit Jean-Claude.
C'est Jean.
Ah, c'est Jean.
Ah, pardon, excusez-moi, oui. Excusez-moi, c'est Jean, désolé. Monsieur Jean Périnet. Alors, je souhaiterais ce soir, en début de cette séance de conseil municipal, que nous observions une minute de silence pour saluer l'héroïsme du lieutenant-colonel Beltram et rendre un hommage aux trois victimes de Carcassonne et de Trèbes, si cela ne vous dérange pas. Je vous remercie. Alors, cette première délibération, elle concerne un rajout à l'ordre du jour une délibération qui concerne le Speak Comeven avec des modifications des statuts, et donc cette modification entraîne un avenant 3. Donc y a-t-il des contre, des abstentions? Merci. Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 2, eh bien, elle concerne l'approbation du dernier compte, enfin, du dernier conseil municipal. Donc, c'est le conseil municipal qui s'est tenu le 27 février et dont le rapport vous a été transmis le 7 mars. Avez-vous des observations, des modifications, des choses à rapporter? Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Merci. Délibération adoptée. Alors, la délibération numéro 3 concerne l'intercommunalité, les espaces valléens pays du Mont-Blanc, avec une convention carte-passe multi-activité et une autorisation de signature. La commune de Megève s'est engagée à mettre en place une carte d'hôte pouvant répondre aux préoccupations des clients, facilité, avantages, reconnaissance, tout en offrant la possibilité de mieux connaître les éléments du séjour du client, coordonnées, durée, type de logement, profil de la famille. Plusieurs solutions techniques ont été étudiées et travaillées afin d'intégrer une compatibilité avec les domaines skiables, le palais et la plupart des activités de loisirs, tout en recherchant une grande flexibilité pour le client. C'est une solution qui est dite « pay per use », donc avantage fidélité, débit différé sur le compte bancaire du client. En parallèle, les communes touristiques de Megève, Prats-sur-Arly et Combloux disposent d'un pass touristique sur la saison d'été. Je rappelle qu'à l'origine, ce pass, il est parti, c'est une initiative de Megève, hein, donc pass Megève, qui a été étendu depuis 2 saisons sur les communes de Prats et Combloux. Donc, qu'on souhaite élargir à la saison d'hiver. Et puis, d'autres passes existent également sur le territoire du Mont-Blanc, du pays du Mont-Blanc, donc entre autres aux Contamines et à Saint-Gervais, et qui ne sont pas compatibles entre eux et n'offrent pas de facilité pour le visiteur et le résident et le client. Donc, la CCPMB, à travers le plan d'action d'espace valléen pays du Mont-Blanc, a prévu la création d'outils collectifs de promotion et de commercialisation de l'offre touristique au pays du Mont-Blanc. Donc, il est proposé de mettre en œuvre une solution globale et collective à l'échelle du pays du Mont-Blanc qui peut répondre à ces enjeux en offrant des facilités à nos clients. La solution retenue sera de créer une carte pass unique sur le territoire. Elle sera de type PPU, donc Pay Per Use. Le paiement se fait à la consommation et non en mode prépayé. Cette carte sera remise par les hébergeurs et les offices du tourisme et permettra d'offrir des avantages pour les clients tout en alimentant les bases d'informations sur les visiteurs, contact, nature et durée du séjour. Elle sera compatible avec la solution SkiData actuellement mise en œuvre sur les domaines skiables et permettra de faciliter le parcours client à la caisse du palais et sur les différentes activités de loisirs. Un site web permettra aux clients de réserver par exemple un terrain de tennis, une activité, un stage et autres fonctions en son temps et ses envies. La solution sera mise en œuvre, va être mise en œuvre, enfin, dans un premier temps, sur une première phase pour l'été 2018, avec le déploiement d'une solution simple et fera l'objet d'un déploiement complémentaire et ajustement à partir de l'automne 2018. Donc, la CCPMB va assurer la maîtrise d'ouvrage de l'action et la recherche des financements externes, et les communes s'engagent à contribuer à la réalisation du projet avec une participation de 20% du montant global des dépenses réparties entre les deux communes du territoire sur la base de la population DGF. Donc il y a une tranche ferme qui est proposée pour la mise en place de la carte, une solution de type PPU sur un budget de 60 000 euros hors taxe. Donc ça, c'est la première tranche qui correspondrait à une mise en place pour l'été 2018. Et une tranche conditionnelle qui est également proposée afin d'accompagner cette carte avec une application mobile offrant des suggestions, un fonds cartographique précis et des parcours clients personnalisés en fonction de son temps, ses coûts et ses affinités. Donc l'engagement de cette tranche est budgété à 90 000 euros et elle est conditionnée à l'obtention de financements européens et régionaux. Le financement global des deux tranches s'élève à 150 000 euros hors taxes et il repose sur une subvention de la région ARA pour 45 000 euros à hauteur de 30%, une subvention européenne au travers des dispositifs POIA pour 75 000 euros et un autofinancement pour l'ensemble des communes des pays du Mont-Blanc pour 30 000 euros. Néanmoins, et afin d'engager le projet sur sa tranche ferme dès l'été 2018 et sans attendre l'accord des financements européens et régionaux, il est proposé aux communes d'avancer le budget intégral de la tranche ferme, 60 000 euros, par rapport, donc pour pouvoir initier cette action avant l'été. Et la CCPMB remboursera la part du trop versé en fonction des subventions perçues. Donc voilà, donc ce projet, il est lancé par la commune, enfin Christian Douchemont apportera des compléments si besoin est. Il est lancé par la communauté de communes. Et aujourd'hui, si vous voulez, le projet, il est financé à hauteur de 70% par des fonds, par des subventions, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas l'assurance d'avoir ces subventions. Donc, les communes sont aujourd'hui d'accord pour porter tout ensemble ce projet de carte multipass. Donc, pour pouvoir le lancer pour l'été, il faut qu'on puisse engager les actions maintenant. Donc, avant le retour des subventions. Donc, ce qu'on s'engage, c'est nous, les collectivités, à faire cette avance pour pouvoir mettre le produit en place avant l'été. Et auquel cas, si les subventions arrivent, elles seront remboursées aux communes par rapport à ce qui vous a été énoncé, c'est-à-dire à une représentation de la population DGF. Et si, un tant soit peu, on n'avait pas de subvention, on s'arrêterait à la phase 1, donc ça aurait un coût de 60 000 euros réparti entre les 10 communes, et puis la phase 2, ben, elle ne verrait pas le jour dans l'immédiat. Voilà. Donc, c'est en gros, si vous voulez, aujourd'hui, la communauté de communes s'est engagée à travailler sur une diversification de l'offre touristique. Donc, on s'est rendu compte aujourd'hui que pourquoi on est parti sur un produit été. C'est un petit peu Megève qui a été l'exemple avec sa carte pass, le pass multipass qui a été créé, qui donne la possibilité de circuler sur différentes activités. Donc, si vous voulez, cette initiative, elle est d'abord portée avec les espaces valéens pour la diversification touristique sur les activités d'été, puisque le touriste en été, il est plus nomade, il circule sur le territoire du pays du Mont-Blanc, et puis sur l'intersaison. Après, c'est sûr qu'en montant un tel projet, il serait dommage de ne pas le rendre compatible avec l'intégration par la suite du forfait hiver. Donc, c'est pour ça qu'on parle à un moment de la diversification de l'offre touristique sur les saisons d'été et intersaisons, mais que par la suite, si on ne va pas s'arrêter à une carte qui ne permettra pas de pouvoir circuler et d'y intégrer un forfait de ski. Voilà. Christian, je ne sais pas s'il y a peut-être des compléments à apporter.
Je répondrai peut-être plus aux questions.
Oui.
Comme vous l'avez dit... excusez-moi. Je crois que c'est important de conserver à l'idée que cette carte, elle va également servir de support pour le domaine skiable et elle permettra d'acheter aux consommateurs ou aux porteurs de la carte d'acheter différents produits avec des remises. Libre à chaque commune et à chaque opérateur d'accorder des remises pour un porteur particulier. C'est-à-dire que cette carte, elle pourrait être confiée à la fois aux résidents, mégevants, aux séjournants, aux résidents semi-permanents. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin dans la déclinaison et chaque opérateur aura le choix de dire bah, pour tel client, c'est moins 40%, pour celui-là, c'est moins 20%, ou pour un autre, c'est moins 5%. Donc, ça, c'est important. Et comme l'a rappelé Madame le maire, à l'origine, il y avait ce projet de carte d'hôte qui est également fléché par rapport à la taxe de séjour. Donc, l'enjeu, c'est également de pouvoir récupérer des données sur les clients et de pouvoir croiser avec les déclarations taxes de séjour qui sont faites par les hébergeurs, comme ça se fait un peu partout sur le principe des cartes d'hôtes. Hein, donc c'est aussi un élément déterminant dans la réussite du projet.
Oui, bonsoir Lionel Bureau. J'ai juste une petite question par rapport à cette carte. Je vois que sur le site web, on pourra réserver éventuellement un terrain de tennis ou des choses comme ça. Par contre, si c'est vrai que s'il y a de la demande et que la réservation se fait et que le client ne vient pas, est-ce qu'il y aura quand même... une caution qui est prise ou quelque chose, parce que là, ça va être un peu compliqué s'ils réservent et qu'ils ne viennent pas. C'est des fois embêtant pour... surtout sur les terrains de tennis, il n'y en a pas non plus beaucoup. Et
bien sûr.
Est-ce que ça va être problématique, peut-être Je ne sais pas.
On est parti sur le principe... Il y a deux principes de carte. C'est soit du prépayé, c'est-à-dire que les gens achètent ou mettent 50 euros ou 100 euros et ensuite, ils ont des crédits pour consommer. On est plutôt parti sur un principe qui paraît plus moderne, et en tout cas qui répond à la demande des clients, de payer que ce qu'ils consomment. Il y a le principe du paper use, du PPU. Donc quand je réserve un tennis, je paye le cours de tennis. Donc en fait, si je ne viens pas, tant pis. Mais j'aurais payé avant la consommation du produit.
Alors en fait, le client, si je peux rapporter un complément, le client, il arrive soit à l'office du tourisme, soit c'est son hébergeur qui lui remet sa carte. Et après, lui, il va télécharger sur sa carte, soit, ce que dit Christian, une certaine somme qui va lui donner une certaine somme à dépenser, soit ses coordonnées bancaires, et auquel cas, il sera débité directement sur sa carte.
Puis rajouter qu'à ce stade, il y a quand même toute une phase de négociation qui doit avoir lieu avec les différentes composantes et partenaires qui seraient intéressés pour souscrire à cette aventure. Parce que ce soit le domaine skiable, les guides et tout ce qui s'ensuit, tout le monde va être sollicité pour justement offrir un service particulier au travers d'une réduction. Parce que c'est ça qui va attirer aussi la clientèle, hein, qu'elle soit locale ou extérieure. C'est un taux de commissionnement qui pourra être établi par rapport aux services qui seront consommés.
En fait, ça sera un support dans lequel vous pourrez intégrer plusieurs déclinaisons, donc carte de résident, le MEGEF Pass, la carte d'hôte et la carte multi-activité pour aller sur tout le territoire du pays du Mont-Blanc. En fait, c'était... Enfin, on a été un petit peu, je crois, les précurseurs, nous, avec le MEGEF Pass. Et puis, comme on a travaillé sur la carte d'hôte, et c'est une volonté qui a été demandée par toutes les communes du pays du Mont-Blanc. Et c'est surtout, c'était ciblé sur l'été, le circuit d'un client qui ne reste pas sédentaire et qui a tendance à circuler et aller sur tout le territoire du pays du Mont-Blanc. Et que nous, on veut garder sur le territoire. Voilà.
J'irai même un peu plus loin. C'est-à-dire que le travail qui a été fait par la commune de Megève et particulièrement par Christian Douchemant sur le travail qui avait été établi, préétabli sur la carte d'hôte, ça a traîné effectivement dans le temps. Néanmoins, toute l'armature du dossier carte d'hôte qui avait été préparée a servi de base de travail à l'intercommunalité pour développer ce concept. Parce que c'est Christian qui a déposé ce dossier et c'est lui qui l'a expliqué à ses collègues en leur disant, voilà, nous on avait travaillé sur un système, une carte d'hôte, voilà la finalité du projet, et surtout une chose qui était importante, c'est que depuis le départ, et Christophe peut en témoigner aussi, on travaillait sur une carte d'hôte qui était une carte d'hôte magnétique, avec un système d'encodage. On avait un problème de fond. Le système développé par la montée mécanique de Megève était Skidata. On avait retenu au départ Skidata. Malheureusement, pour une histoire d'appel d'offres, c'est la société Elisat qui avait été retenue au Palais des Sports. Néanmoins, la société Elisat devait s'accorder avec la société Skidata pour que l'encodage des cartes soit possible entre les différentes entités. Et le projet défendu aujourd'hui l'intercommunalité est basé sur le système Skidata. Au niveau de toutes les communes, c'est ça qui est important, parce que l'avenir est là. C'est-à-dire que l'encodage, il y a différentes pistes dans une carte qui permettent, comme l'a dit Madame le maire, d'encoder à la demande et en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, un autre conseiller municipal avait aussi posé la question, mais vous rajoutez une carte de plus. Il faut arrêter de se dire qu'on va avoir des cartes support plastiques dans le portefeuille et qu'on va en avoir 4 ou 5. En réalité, on n'en aura qu'une, puisque toutes les cartes vont être téléchargées dessus. C'est ça l'enjeu aussi. Et chaque commune garde la main sur ce qu'elle veut télécharger. Donc, il y a la carte Passe Mont-Blanc, qui est générale. Donc, c'est ça qui crée l'unité aussi au niveau de ces communes. Et en même temps, ensuite, chaque commune va télécharger ce qu'elle veut télécharger. Donc, on garde la main aussi sur la carte. Et dernier point. J'avais été précurseur, et à l'époque, Madame le maire n'était pas maire, elle était adjointe maire. Concernant la carte passe, MEGEF Pass. Le MEGEF Pass, qui avait pris une autre tournure avec Combloux, MEGEF et Pras-sur-Arly, avait un inconvénient. L'inconvénient majeur, c'était le système des répartitions entre communes par rapport aux services qui étaient proposés. Imaginez que si on devait appliquer la répartition avec 10 communes et toutes les activités qu'il y a dessus, c'est une usine à gaz. Donc le système, comme l'a expliqué Christian et Madame le maire du paper use, est l'idéal. Vous payez ce que vous consommez. Donc vous payez directement auprès du fournisseur de services et il n'y a pas de. Les communes n'ont pas à se reverser telle ou telle quantité de commissionnement ou les différentes entités par rapport justement à ce qui est proposé.
Et c'est... Sauf que ça veut dire qu'il ne faut pas exclure le MEGEF Pass, hein, qui restera toujours intégré. Attention, hein, c'est le MEGEF Pass, donc c'est si vous voulez. Organisé sur la saison d'été, c'est soit un pass 3 jours, soit un pass 7 jours, et qui est fort apprécié par notre clientèle et qui donne libre accès. Donc ça, le MEGEF Pass, il est intégré et le support pourra intégrer la carte du MEGEF Pass. Voilà.
De toute façon, il se peut qu'on soit à nouveau, c'est même plus que probable, on va être obligé aussi de restatuer prochainement par rapport à cela, parce qu'il y a sûrement des tarifs qui vont être votés pour intégrer cette nouvelle carte au niveau de nos services publics, en quelque sorte. Et donc, on sera obligé de restatuer. On reparlera de ce dossier dans les mois qui viennent.
Donc, en fait, cette délibération aujourd'hui, c'est pour... c'est une convention de partenariat. Si vous voulez, c'est pour pouvoir lancer le projet pour cet été, parce que... Pour une fois, toutes les communes sont d'accord et sont pressées de voir ce système se mettre en place. Donc, c'est pour lancer, c'est conventionner aujourd'hui la prise en charge des 60 000 euros dans sa globalité par les communes avant de recevoir les subventions. Et donc, quand on recevra les subventions, elles seront redistribuées aux communes en fonction de la répartition des par rapport à la population des GF qui a été validée par le bureau communautaire. Voilà. Donc ça, c'est pour nous permettre de lancer le projet pour l'été. Et donc, vous êtes invité à approuver donc ce projet de convention de partenariat qui est annexé à la présente délibération, m'autoriser à le signer, cette convention de partenariat, et m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de ces délibérations. Y a-t-il des contre, des abstentions ? Merci. Délibération adoptée. La délibération numéro 4, elle concerne le marché hebdomadaire du vendredi. Approbation, Laurence Hoquet.
Le dernier règlement qui date du 5 août 2006, et depuis cette date, les lois ont évolué, et les documents que doivent présenter les différentes corporations de commerçants non sédentaires ont changé avec la loi 2008-726 du 4 août 2008. Par ailleurs, l'emplacement du marché hebdomadaire s'est développé. Suppression du stationnement sur le parking de l'autogare, donc présence sur la place de l'église face à la mairie, implantation rue Général Muffat et implantation sur la rue Charles Fège. Donc en annexe, vous avez le règlement du marché hebdomadaire, vous avez le courrier du syndicat des commerçants non sédentaires de la Haute-Savoie qui avait fait quelques petites demandes de modification, ainsi que le courrier du syndicat des commerçants non sédentaires de la Haute-Savoie avec l'avis favorable. Donc le conseil municipal est invité à approuver le règlement du marché hebdomadaire tel qu'annexé à la présente délibération et autoriser Madame le maire ou son représentant à mettre en œuvre cette réorganisation par arrêté municipal. Donc, il y avait une demande des commerçants non sédentaires de la Haute-Savoie de clarifier sur la place du village. Donc effectivement, les gens qui viennent le vendredi matin sur la place, ils sont inscrits soit à la chambre de métier, soit à la chambre de l'artisanat. C'est cadré.
Vous avez des questions ? Bon, donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 5, elle concerne la SA des remontées mécaniques de Megev et l'approbation des tarifs été 2018 du délégataire de services publics. Donc vous savez que... Le contrat de délégation de trois services publics de la commune Megève a pris effet le 15 avril 1993 et prendra effet le 14 avril 2023. À chaque volonté de modifier ses tarifs, le délégataire doit présenter sa proposition qui doit être validée par le conseil municipal avant d'être appliquée. Donc au titre des trois délégations de services publics conclues avec la commune sur les domaines de Rochebrune, Rocharbois et Mandarbois, la SA des remontées mécaniques de Megève
nous propose sa grille tarifaire pour la saison d'été 2018. Donc, vous avez pu les regarder, observer. Donc, vous avez la nouvelle grille pour les ouvertures et tarifs spéciaux pour l'été 2018. Et puis, vous aviez les tarifs 2017 pour pouvoir comparer. Donc, il n'y a pas d'augmentation excessive ni de changement particulier. On reste sur les mêmes propositions que l'été dernier. Voilà. Vous avez des observations, des choses que vous avez repérées sur lesquelles vous aimeriez avoir des réponses? Pardon? Pas de questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Par contre, vous avez vu, on a les ouvertures téléphériques sont le 24. Alors, pour le téléphérique de Rochebrune, parce qu'il y a des travaux sur le téléphérique. Et le... Oui, le 23 juin pour le téléphérique de Rochebrune et télécabine du Mont-d'Arbois, 22 juin. Hein, voilà. Donc, jusqu'au 2 septembre.
Oui, c'est juste le regret qu'on n'ait pas au moins la première semaine de septembre, au moins d'une remontée, ce qui se faisait des fois avant, mais on ne sait pas le jaillet s'ils le font ou pas. Je sais que des fois avant, il y avait toujours une remontée qui restait, ça tournait. Donc c'est vrai que c'est des fois intéressant, parce qu'on a la première clientèle de la première semaine de septembre, où des fois on a quand même des gens qui viennent extérieurs aux vacances. Bon, je sais que c'est pas rentable, mais c'est des fois intéressant.
Je pense que, effectivement, on avait demandé, alors est-ce qu'il serait intéressant de décaler une semaine de juin sur le septembre?
Je pense, parce que juin, c'est pas là où il y a le plus de monde. Hein. Honnêtement, c'est mieux. Des fois, on a plus l'arrière-saison septembre qui est intéressante que début juin. Hein. Enfin, personnellement, je vois, c'est ce qui se passe souvent dans les commerces. Hein. Je suis pas le seul commerçant. On voit bien que des fois, on a quand même un peu plus de monde en la
première
semaine.
Non, mais on pourrait en laisser une qui commence le 22 juin, et puis l'autre, la décaler...
Sur septembre, ça
sur
serait
septembre.
Mieux.
Ouais. Je vais demander, et puis je reviendrai, je vous le reconfirmerai. Mais je pense que ça peut être...
Après, on ne sait pas les dates, on ne les sait pas, ouais. Si, après, s'il y a le jaillet, il n'y a pas de problème.
Je travaille dans ce sens. On voit avec notre délégataire. OK. Merci. Donc, de la délibération numéro 6 à la délibération numéro 15, je pense que vous avez pu constater que ce ne sont que des demandes de subventions. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, ce sont tous des travaux qui sont inscrits au BP 2018. Il y a 10 délibérations, on va recommencer à chaque fois. Je pense que je vais vous donner le détail de chaque délibération et puis vous donner le montant et puis les subventions et puis on fera peut-être un vote global plutôt que de répéter chaque chose, hein, si ça vous dérange pas. Donc la délibération numéro 6, elle concerne une demande de subvention. Donc les 10 délibérations, c'est demande de subvention. La 6, c'est pour la réfection du toit de l'école. Donc 164 988,60 euros hors taxe, le montant des travaux. La subvention, elle est demandée dans le cadre du FDDT et à hauteur de 50% des travaux. La délibération 7, elle concerne la crèche touristique, donc 325 000 euros. Pareil, c'est une subvention qui est dans le cadre du FDDT et elle est demandée à hauteur de 50% des travaux. La délibération numéro 8... c'est le réagencement de la médiathèque avec la création d'un espace culturel. Donc, c'est 100 000 euros de travaux hors taxe. Donc, il y a une partie de la subvention qui est demandée dans le cadre du FDDT, donc au plus fort taux que l'on pourra avoir. Et une autre partie de la subvention qui est demandée, au titre qui s'adresse à la DRAC pour la partie culturelle. Et pareil, au plus haut taux, au taux le plus fort de subventionnement. La délibération numéro 10, elle concerne la remise en fonctionnement de la turbine, la centrale hydraulique du Palais. Donc c'est un montant de 140 000 euros hors taxe. La subvention, elle est adressée dans le cadre du FDDT et elle est demandée au taux le plus fort. La délibération numéro 11, c'est la séparation de la balnéoforme intérieure et extérieure pour un montant de 60 000 euros hors taxe. Et cette subvention, elle est demandée aussi dans le cadre du FDDT et au taux le plus fort. La délibération numéro 12, c'est la subvention qui est demandée dans le cadre de la création d'une aire de jeu base de loisirs et la création d'une passerelle piétonne pour accéder à cette base de loisirs. Donc le montant des travaux, c'est 361 967,12 euros hors taxe pour la base de loisirs et 23 561 hors taxe pour la passerelle d'accès. Donc là, il y a une subvention qui est demandée dans le cadre du FDDT à hauteur de 50% sur les deux projets. La délibération numéro 13, c'est l'aménagement de voirie de la rue Saint-François. Donc là, il y a un montant de travaux qui est subventionnable à hauteur de 140 791,26 euros. Et la subvention est demandée dans le cadre du FDDT à un taux maximum, un taux de 50% du montant des travaux. Délibération 14, donc c'est le remplacement des bornes escamotables. Donc là, on a un montant de travaux de 362 452 hors taxes. Et donc là, la subvention, elle est demandée dans le cadre du FDDT à hauteur de 50% du montant des travaux. Et puis la dernière délibération, c'est la 15. Là, elle concerne la rénovation du patrimoine bâti. Donc là-dedans, il y a trois projets. Il y a la rénovation d'un appartement à la Montagnette pour un montant de 50 000 euros. Refuge du Calvaire, c'est la mise en accessibilité des toilettes pour 25 000 euros. Et puis la rénovation des locaux de la police municipale pour 50 000 euros. Et ces trois projets sont l'objet d'une demande de subvention dans le cadre du FDDT, à hauteur de 50%. Voilà. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'opposition à ce que nous demandions des subventions pour financer une partie de ces travaux, qui sont donc, comme je vous le confirme, inscrits au budget, au BP 2018. Donc, on va passer à la subvention. Enfin, on va voter à global. Je veux dire, qui est contre? Qui s'abstient pour ces demandes de subvention? Merci. Donc, délibération adoptée à l'unanimité pour ces demandes de subvention. Alors, attendez, maintenant, il faut que je retrouve ma page, moi. On a sauté 15. Voilà. Donc, on passe à la délibération numéro 16. Alors, la délibération numéro 16, c'est donc une proposition de nomination de directeur à la régie de commercialisation touristique Frédéric Goujat.
Par délibération du 30 juin 2015, le conseil municipal de la commune de Megève a procédé à la création d'une régie au 1er juillet 2015 dotée de la seule autonomie financière dénommée régie de commercialisation touristique. Pour l'exploitation des opérations de commercialisation de produits touristiques qui constituent l'activité industrielle et commerciale, ensuite des opérations de partenariat, de commercialisation des espaces et de séminaires gérés en direct par la commune, conformément aux modalités prévues à l'article L2221, alinéa 14 du Code général des collectivités territoriales et à l'article 7, composition du conseil d'exploitation de la régie, des statuts de la régie, le conseil d'exploitation élit en son sein son président lors de sa première réunion suivant la désignation des membres du conseil d'exploitation par le conseil municipal. Sous l'autorité du maire, le directeur assure les fonctions suivantes. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien normal de la régie et l'exécution des décisions du conseil municipal et du conseil d'exploitation. Il prépare le budget. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le maire désigne le directeur général des services qui assure temporairement les fonctions mentionnées au présent article. Proposition, le conseil municipal est invité à désigner Mme Muriel Caldi de Paris en tant que directrice de la régie de commercialisation touristique, autoriser Mme le maire à prendre toutes les mesures des dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération. La technicité des SPIC existants sur les territoires, sur la commune de Megève qu'on a créée depuis 2015, à savoir le SPIC Comeven, objet de cette délibération, ainsi que le SPIC Palais, de par les budgets qui sont connus à ce jour de l'importance des subventions qui partent du budget principal de la commune pour réaliser l'équilibre financier de ces budgets, il y a un véritable souhait politique, une véritable volonté de Madame le maire d'avoir à cette direction du SPIC Comiven une réelle technicienne financière dans le but de mettre en place une ingénierie financière, d'avoir un contrôle analytique, contrôle de gestion et une comptabilité analytique très stricte, nous permettant d'avoir une vue très précise des recettes et des dépenses qui concernent ce SPIC, tout particulièrement. Il en va de même concernant le SPIC du Palais. Madame Caldi est là en tant que conseillère, de par ses attributions. Il y a un directeur déjà existant, mais c'est un enjeu très important pour l'avenir. Donc, on n'en est plus au stade de la comptabilité simple. Là, on est dans de l'ingénierie financière. Il y a une très, très grosse importance par rapport au support que représentent ces deux entités par rapport à la comptabilité générale de la commune de Megève. Et donc, on répond à un réel besoin. Voilà. Ça, c'est le premier point.
T'as un deuxième point ?
Le deuxième point, c'est... Le deuxième point concernera la délibération suivante.
Bon, alors, on va passer au vote pour la délibération numéro 17, nommant Muriel Caldi directrice de la régie commerciale touristique. Pardon, la délibération numéro 16. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée. La délibération 17 donc, concerne le SPIC Comeven, modification des statuts, l'avenant numéro 3. Donc, Frédéric Goujat, le deuxième point.
Donc, compte tenu d'une réorganisation des services et de la volonté municipale d'exercer une gestion financière et fiscale accrue de ce service, il est décidé de modifier les statuts de la régie en ce qui concerne les missions de directeur. Donc, vous avez en l'avenant numéro 3 au statut de la régie SPIC qui est annexé ensuite. Le point principal de cette de la modification de cet avenant concerne la mission. Elle est clairement établie de direction la gestion financière du SPIC. Néanmoins, il y a une chose qui est importante, qui est sortie du cadre du pouvoir du directeur. Le directeur n'assurera pas la nomination et la révocation des agents et employés de la régie. C'est très important. Madame Caldi va s'occuper de toute la partie financière. La partie de gestion du personnel restera sous l'autorité de Christian Douchemant. Et, bien évidemment, du directeur général des services, qui est son supérieur direct. Et, bien évidemment, sous l'autorité de Madame le maire. C'est un point... Il n'y a que ce point qui est à souligner.
Donc le conseil est invité à approuver la modification du code consommateur de 10 par l'amendement numéro 3, autorisant la demande de son pouvoir par ce qui est nécessaire à l'exécution de cette déclaration.
Des questions ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 18 concerne le pôle finance programmation sportive de haut niveau, sélection et classement aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, Clément Paris, avec versement de primes, Christophe Bougot.
Vous êtes habitué à ce genre de délibération, avec cette politique de versement de primes aux sportifs de haut niveau, avec les critères de performance, de citation de Megève dans les médias, de l'appartenance au club des sports. Et donc, Monsieur Clément Paris, sportif licencié au club des sports de Megève, a remis à la commune de Megève une demande de prime pour sa sélection et son classement au skiathlon aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud, qui se sont déroulés en février 2018. Donc, vous avez en annexe la lettre du demandeur, un beau certificat de participation au JO, s'il en était besoin, si vous ne l'avez pas regardé en direct à la télé. Et donc vous êtes invité à confirmer le maintien du versement des primes en l'état, de prendre acte de la sélection et du classement en skiathlon aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud de M. Clément Paris, où il a remporté une médaille de bronze en relais, attribuer à M. Clément Paris une prime de 3 000 € au titre de sa sélection, attribuer à M. Clément Paris une prime de 7 000 € au titre de son classement, où il a remporté une médaille de bronze en relais, autoriser à Mme le maire ou son représentant à procéder au versement de ses primes. Je m'étonne du skiathlon, là. C'est le classement, c'est un relais, hein. Il a été vice-champion du monde en skiathlon. Il a couru le skiathlon, mais... C'est le classement, c'est sur le relais, hein. Il y a une petite erreur dans la délibération, là. Oui, il a couru. Le classement, la prime, c'est sur le relais.
C'est sur le relais, la prime.
Absolument, il a couru le skiathlon.
Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, bon, je pense que vous avez... Enfin, ces sportifs sont revenus. On avait 3 sélectionnés au JO émanant du Club des Sports. Donc, Clément Paris, Anthony Bénat et Camille Cabrol. Donc, il y avait eu une petite réception au sein du Club des Sports pour leur souhaiter bonne chance avant qu'ils partent sur les JO. Il y a eu une réception en l'honneur de Clément, mais il y aura aussi une réception pour féliciter quand même ces 3 champions qui sera organisée. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y avait, après leur retour de Pyeongchang, ils avaient encore des compétitions et on n'est pas arrivé à trouver le créneau, mais... Vous serez conviés à une réception pour pouvoir féliciter ces sélectionnés et champions olympiques. Oui, là, je crois que maintenant, ils sont... Week-end dernier, oui. Ils ont tous les deux... Enfin, je crois qu'il y a... Ouais, Clément aussi, oui. Ouais, ouais. Ils ont encore fait des exploits sur les championnats de France dans leur discipline. Donc voilà. Donc,
oui, je crois que ça serait bien d'avoir une petite réception pour les jeunes, parce que pas facile pour parce qu'il y a quand même le monde qui est sur le terrain, et je crois que c'est que la Megève est quand même 3 participants au JO, c'est quand même très bien, je crois. Et on peut facilement les féliciter, les honorer.
Ils seront...
Oui, c'est prévu depuis un petit moment déjà. C'est vrai que, comme le disait Madame le maire, c'était assez compliqué avec les calendriers. Voilà, maintenant ils vont être un peu plus relâche là. Ils vont pouvoir penser à faire la fête plutôt qu'à penser à la performance.
On a voté là, je ne sais plus. Non, on n'a pas voté. Si, j'ai dit qui est contre et qui s'abstient, je crois. Si, hein. Oui, si. On a voté. Donc, délibération 19, elle concerne le pôle marché et achat public, accord cadre à bon de commande, travaux d'entretien et d'aménagement de voirie, de réseaux divers, attribution Laurent Soquet.
Le marché à bon de commande conclu en 2016, lié aux travaux d'entretien et d'aménagement de voiries, de réseaux divers, arrive à son terme le 20 avril 2018. Il a donc été procédé à une nouvelle consultation. Un avis d'appel public à la concurrence a été diffusé le 1er février 2018 sur le profil acheteur de la commune AWS Achat et au Dauphiné Libéré. Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande avec un seuil minimum de 50 000 euros hors taxes et un seuil maximum de 350 000 euros hors taxes par période annuelle. Le contrat sera conclu pour une période initiale partant de sa date de notification jusqu'au 31 décembre 2018. Il sera renouvelable tacitement 2 fois par période de 12 mois. La durée globale avec période de reconduction porte le contrat jusqu'au 31 décembre 2020. Au terme du délai de la consultation, le 2 mars 2018, une seule proposition a été réceptionnée. Après examen de l'offre et au vu du rapport d'analyse présenté à la commission MAPA le 15 mars 2018, il est proposé d'attribuer l'accord cadre à bon de commande à la SAS Montblanc Matériaux, 6152 route de Salange, 74-120, Demi-Gartier. Le conseil municipal est invité à attribuer l'accord cadre à bon de commande lié aux travaux d'entretien et d'aménagement de voirie, de réseaux divers à la SAS Montblanc Matériaux, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer lesdits contrats avec le candidat désigné ci-dessus, prévoir les crédits correspondants sur son budget au chapitre 011 et 21.
Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 20, toujours pour le marché achat public, achat de balayeuses aspiratrices de voirie. C'est un marché de fournitures courantes et de services. Et pour l'attribution, la délibération est donnée à Laurent Soquet.
La municipalité a entrepris un renouvellement et une optimisation de son parc automobile. Dans cette optique, il a été décidé de remplacer les 2 balayeuses acquises en 2003 et 2010 par 2 autres neuves et de 2 et de 5 mètres cubes. Une procédure d'appel d'offres a été lancée et a fait l'objet d'une publicité au bulletin officiel d'annonce des marchés publics et au supplément du journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur le profil acheteur de la collectivité, la plateforme de dématérialisation AWS-HA, le 5 février 2018. La date limite de dépôt des offres était fixée au 8 mars dernier. Deux propositions ont été remises. Les services de la commune ont procédé à l'analyse des offres et un rapport a été présenté à la commission d'appel d'offres. Sur la base de ce document, les membres de la commission ont décidé d'attribuer le marché à la SA Mathieu, dont le siège se situe 85 rue Sébastien Choulette à Toul, dans la Meurthe-et-Moselle. Le montant de la proposition s'élève à 247 466 euros hors taxes, soit 296 959 euros 20 TTC. L'offre comprend la fourniture d'une balayeuse Mathieu version Azuraflex MC210 tier 4 et une autre Ravo type CR540 XL Euro 6. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer le marché portant sur l'achat des balayeuses aspiratrices de voirie avec la SA Mathieu pour un montant de 247 466 euros hors taxes et prévoir les crédits correspondants au budget principal au chapitre 21. Moi, je voudrais quand même juste féliciter parce qu'on a une équipe au garage qui font quand même des miracles parce qu'on a quand même été pas mal embêtés cet hiver avec nos véhicules de neigement. Mais ils ont su, ils sont arrivés à nous remettre en état nos balayeuses, puisque vous avez vu qu'elles ont repris leurs fonctions. Et bah, grâce à cette équipe au garage, on arrive encore à pouvoir utiliser nos balayeuses, parce que là, le temps de lancer les marchés, de pouvoir réceptionner les nouvelles, ça va prendre encore un peu de temps. Donc on espère bien arriver à les prolonger suffisamment pour arriver à faire la boucle entre l'arrivée des nouvelles et le départ des anciennes.
Donc, qui est contre, qui s'abstient. Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 21 concerne le pôle développement et aménagement durable. Projet de résidence de tourisme ou d'hébergement hôtelier, c'est la montagne. C'est la convention d'aménagement touristique. Patrick Philippe.
Le 27 novembre 2017, la SARL C'est la Montagne, représentée par son gérant M. Monin Philippe, a déposé une demande de permis de construire pour procéder à la réhabilitation et l'extension d'un hôtel, restaurant, bar et commerce. La surface de plancher totale du bâtiment sera portée de 1133 m² environ à 2229 m² environ. Ce projet rentre dans les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de Megève et plus particulièrement dans l'axe 2 visant à soutenir l'économie locale dans toutes ses composantes pour le maintien de l'emploi et le dynamisme touristique de la station tout en assurant une pérennité d'affectation. Le Code du tourisme prévoit que toutes les opérations d'aménagement touristique doivent faire l'objet d'une convention entre la commune et l'opérateur concerné afin de préserver le caractère d'intérêt général de telles opérations et pour assurer une meilleure protection de l'environnement. La commune et la SARL C'est la Montagne se sont rapprochées afin de définir l'objet et les conditions de la convention d'aménagement touristique qui permettra d'encadrer le projet. L'objet de la convention est de définir les conditions dans lesquelles sera réalisé sur le terrain 6 à Megève au lieu dit Megève, cadastré à la section AA sous le numéro 152, un projet de réhabilitation et d'extension d'un ensemble immobilier touristique éligible en permanence aux critères d'attribution d'un classement hôtelier d'au moins 4 étoiles français, composé de 16 chambres, suites, de 3 chalets de 4 chambres chacun, de boutiques, d'un lounge bar, d'un restaurant et d'un dortoir de 3 lits. La résidence de tourisme ou d'hébergement hôtelier devra être mise en exploitation au plus tard pour Noël 2020. Les locaux seront exclusivement affectés aux destinations susnommées sous-énoncés et seront conformes dès leur ouverture aux définitions et normes correspondant en permanence aux critères d'attribution d'un classement hôtelier d'au moins 4 étoiles français. L'hôtel et le restaurant devront être ouverts au moins 8 mois par an. En cas de changement de destination ou de perte de classement, des sanctions sont prévues par la Convention d'aménagement touristique. Compte tenu de la nature et de l'importance du programme immobilier touristique de l'opérateur, ainsi que de sa durée normale d'amortissement, la convention, qui prend effet à compter du jour de sa signature de manière à régir la période de construction, sera conclue pour une durée qui expirera au terme d'une durée de 20 années à compter du jour du classement de la résidence de tourisme ou d'hébergement hôtelier. Vous avez en annexe le projet de convention touristique qui reprend les précédents projets de convention qu'on a pu déjà signer par le passé pour d'autres projets de réhabilitation ou de construction d'hôtels. Moi, simplement, peut-être un petit mot, puisque là, on aborde simplement la partie convention de cet aménagement et de cette réhabilitation. Moi, je voudrais aussi parler de ce projet qui, en fait, est le Soleil d'Or, le plus vieil hôtel de Megève, et qui, aujourd'hui, grâce aux travaux menés dans le PLU, mais aussi avec l'appui d'investisseurs, renaîtra de ses cendres, puisqu'il sera maintenu dans sa vocation initiale, à savoir un hôtel. Je me réjouis aussi de voir que cet hôtel, qui est un des repères d'urbanisme à Megève, sera conservé, en tout cas dans son corps principal, et il y aura des extensions et des bâtiments qui viendront compléter, en tout cas, ces aménagements, pour pouvoir rendre cet investissement, cette réhabilitation pérenne. Et puis aussi, je me réjouis de voir qu'il y a aussi des gens qui croient encore à Megève et qui s'investissent dans des projets qui sont, très raisonnables, puisque si vous avez l'occasion d'aller vous rendre sur le site de cette société qui s'appelle, cette chaîne qui s'appelle Millésime, vous allez voir, ça s'appelle Millésime Collection, et vous avez l'ensemble petites structures hôtelières qu'ils ont dans toute la France, et qui sont, à mon avis, qui correspondent parfaitement, qui vont venir s'intégrer entre des grands projets hôteliers 5 étoiles, mais aussi des petits projets qui vont venir, en tout cas, compléter l'offre hôtelière à Megève. En tout cas, moi, je me réjouis de voir cette réhabilitation arriver. Et c'est un très beau projet. Et il est présenté, d'ailleurs, dans le site. Donc, je vous propose d'approuver le projet de convention d'aménagement touristique annexé à la présente délibération, d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention d'aménagement touristique et tous les documents afférents à cette convention, autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette convention.
Donc, vous avez d'autres questions sur le... Je pense qu'il faut souligner aussi qu'effectivement, on va voir s'éteindre une nouvelle friche hôtelière, oui. Et je crois que l'emplacement où elle est, c'est toute la rénovation d'un quartier qui est en train de s'inscrire et qui apportera d'autant plus d'attractivité au centre du village. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Le pôle développement et aménagement durable, c'est la délibération 22 qui concerne la construction de fourreaux souterrains pour les câbles fibre optique. Mise en place d'une convention de droit d'usage sur la parcelle AD numéro 156 au lieu dit Alose. Patrick Philippe.
Dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie, le syndicat des énergies et d'aménagement numérique, le CIAN, souhaite créer un parcours de fourreaux souterrains sous la rue des Aloses, sur la parcelle communale AD numéro 156. Il est proposé d'autoriser le CIAN à créer le réseau de communication électronique sous la parcelle AD numéro 156 via la conclusion d'une convention de droit d'usage. L'autorisation d'occupation est acceptée et consentie sans indemnité. Donc vous avez en annexe le projet de convention de droit d'usage et le plan de situation parcellaire. Je vous propose d'approuver la création d'un réseau souterrain pour le passage de la fibre optique sous la parcelle communale AD numéro 156. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention de droit d'usage ainsi que tout document afférent à ce dossier et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la poursuite de ce dossier.
Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 23 concerne toujours le pôle développement et aménagement durable, extinction amiable d'une servitude de passage pour véhicules sur les parcelles section AN numéro 50 et 51 au lieu dit Megève et Arly. Patrick Philippe.
Le quartier du Paddock, concerné par la concession d'aménagement, est constitué des parcelles cadastrées section AN numéro 51 et 52 appartenant au domaine public communal. Afin d'améliorer la liaison piétonne entre le centre-ville et le palais, la circulation sur un îlot a été retravaillée dans le but de créer un axe libre de tout véhicule. Une servitude de passage avait été créée pour permettre aux véhicules d'accéder aux locaux de la gendarmerie et aux logements depuis la route nationale RD 1212. Elle n'aura plus de raison d'exister dans le cadre de la concession d'aménagement, car leur accès a été déplacé par l'impasse de la Romance en passant par la rue des Allobroges. Suite à la délibération du CIVOM du Jaillet, en date du 15 mars 2018, à propos du renoncement de cette servitude, il convient de l'éteindre afin de permettre l'aménagement d'un pôle d'échange piéton, créateur de liens urbains entre le centre-ville et le palais des sports. Vous avez en annexe le plan de localisation et le plan de servitude.
Donc ça, c'est le cadre dans l'aménagement de la concession du paddock, donc projet qui a déjà été présenté à plusieurs reprises, avec une organisation, entre autres, des espaces et de circulation qui va être modifiée, et donc qui demande la suppression de cette servitude, puisque, comme l'a expliqué à plusieurs reprises Laurent Soquet, l'accès à la gendarmerie ne se fera plus par la plateforme devant la gendarmerie et l'autogare.
L'idée aussi est de sécuriser l'accès des bus, qu'il n'y ait plus de trafic de véhicules, soit des gendarmes, puisqu'il n'y aura plus de parking, soit de véhicules de tout type, sur les manœuvres des bus, pour éviter l'accident.
Donc je vous propose d'éteindre la servitude de passage pour véhicules ayant pour fond servant la parcelle AN numéro 51 et le volume 4 de la parcelle AN numéro 50, et pour fond dominant les lots volume 1, 3 et 5 de la parcelle AN numéro 50. Autorisez Madame le maire ou son représentant à signer l'acte authentique constatant cette extinction de servitude, ainsi que tout autre document afférent à ce dossier, et effectuer toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente. Autorisez l'inscription de l'opération au budget sous le numéro de compte 6226.
Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. La 24, elle concerne le pôle eau, régie municipale de l'eau, avec une proposition de nomination de directeur de la régie municipale de l'eau, Christophe Bougot.
Donc il y a trois délibérations qui se suivent, qui sont très similaires. Donc pour ma part, c'est l'eau et l'assainissement, la nomination de Francine Vital en tant que directrice de la régie municipale de l'eau pour la délib numéro 24, et directrice de la régie municipale de l'assainissement pour la délibération numéro 25. Voilà, donc le directeur assure les fonctions suivantes. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien normal de la régie et l'exécution des décisions du conseil municipal et du conseil d'exploitation. Il prépare le budget et l'autorité sur les agents affectés au service de la régie. Donc cette nomination a été vue en conseil d'exploitation le 22 février 2018. Donc vous êtes invité à désigner Madame Francine Vital en tant que directrice de la régie municipale de l'eau et autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération. On fait peut-être les deux à la suite. Donc la deuxième proposition pour la délibération... Laurent, je laisserai Laurent Soquet faire la troisième. Pour la délibération 25, donc désigner Madame Francine Vital en tant que directrice de la régie municipale de l'assainissement et autoriser Madame le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cette délibération. Et je passe la parole à Laurent Soquet.
On fera un vote pour les trois. Voilà, on a bien apprécié le système de Madame le maire tout à l'heure, donc on continue, évidemment. Donc là, c'est pareil, c'est pour nommer la directrice. Hein, donc là, c'est sous l'autorité du maire, la directrice assure les fonctions suivantes. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien normal de la régie et l'exécution des décisions du conseil municipal et du conseil d'exploitation. Il prépare le budget, il a l'autorité sur les agents affectés au service de la régie, et en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le maire désigne le directeur général des services qui assure temporairement les fonctions mentionnées au présent article. Donc là, c'est pour la proposition, c'est le conseil municipal est invité à désigner Madame Francine Vital en qualité de directrice de la régie municipale des parcs de stationnement. Des parcs de stationnement et donner pouvoir à Madame le maire ou son représentant pour effectuer les formalités nécessaires.
Alors, cette nomination, elle intervient dans le cadre de la réorganisation des services suite à la nomination de Barbara Pissard en tant que DGA ressources. Et donc, elle s'intègre aussi dans le cadre de la promotion interne que nous souhaitons mettre en avant. Et Francine Vital ayant réussi son concours de technicien, donc... Elle succédera donc dans le cadre d'une promotion interne à Barbara Pissard, à la direction de ces trois régies. Voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, nous passons à la délibération 27, qui concerne le pôle famille-enfance-éducation, le service enfance, avec le règlement de fonctionnement. Nadia Arnaud.
Le multi-accueil collectif, la grande crèche située 26 allée des Lutins, accueille les enfants de 3 mois à 4 ans. Suite aux modifications du calendrier vaccinal des enfants nés à partir du 1er janvier 2018, loi du 30 décembre 2017, il convient de modifier le règlement de fonctionnement de la structure. Il y a quelques points en même temps qui seront changés, c'est-à-dire qu'il y a une ligne qui sera enlevée concernant le personnel, où en fait, il y avait, pour les équivalences concernant le CAP petite enfance, quand il y avait les assistantes maternelles, donc c'est une ligne qui sera enlevée, parce que quoi qu'il en soit, une assistante maternelle maintenant doit obligatoirement avoir le CAP petite enfance. Deux, instruction du dossier. Les enfants étaient accueillis à partir de 3 mois et on passe à partir de maintenant. Ça sera un accueil qui sera possible dès 2 mois et demi pour les familles intéressées. Une nouveauté, c'est la participation financière lors des parents qui sont séparés ou autres, où en fait ils auront la possibilité de chacun d'avoir le calcul pour leur situation familiale. Le changement aussi, c'est concernant donc la vaccination qui est obligatoire pour les enfants de 2018 et pour les enfants qui sont nés avant le 1er janvier 2018, ils seront recommandés que leur calendrier vaccinal soit à jour. La vaccination pour la tuberculose pourrait être demandée par le médecin de la crèche si un risque élevé est estimé. Concernant les conditions d'accueil qui n'étaient pas juives, c'est pour le bien-être de l'enfant et son bon rétablissement. Il est conseillé d'éviter la collectivité en cas de maladie, signes cliniques tels que vomissements, diarrhée, forte fièvre, difficultés respiratoires ou varicelles. Et que pour tout ce qui est en page 9, pour les conditions d'accueil de la vie quotidienne, déjeuner et goûter, c'est en cas d'allergie alimentaire et selon les recommandations médicales, il pourra demander aux parents de fournir les repas. En annexe, vous avez le règlement de fonctionnement. Et le règlement de fonctionnement va subir aussi un toilettage par la suite où il sera synthétisé pour permettre aux familles une lecture un peu plus simple. De plus, il sera demandé aussi, du fait qu'on n'ait plus le label Famille Plus, qu'il soit retiré, qu'il soit enlevé. Le conseil municipal exposé du rapporteur entendu est invité à confirmer les différentes modifications du règlement de fonctionnement, autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tout acte et tout contrat et accomplir les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Des contre ? Des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité ? Délibération 28, toujours le pôle famille, enfance, éducation, petite enfance, une demande de subvention au REAP. Nadia Arnaud-Prin.
Donc c'est une demande de subvention qui a été déjà formulée en 2017, où ça concerne un réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Et là, c'est pour un budget en fait qui est estimé à 3 337 euros et on peut obtenir une aide de 2 000 euros. Donc le conseil municipal exposé du rapporteur a entendu invité à confirmer sa décision de solliciter le REAP pour une participation financière, autoriser le maire à déposer un dossier d'aide et signer toute convention s'y rapportant, et autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à l'application de cette délibération.
Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc là, nous allons rentrer dans la série des délibérations relatives au pôle RH. Donc c'est le pôle ressources humaines, emploi et compétences, affiliation au régime d'assurance chômage, Jocelyne Coe.
Les collectivités locales sont assujetties aux mêmes règles d'indemnisation du chômage que les employeurs du secteur privé. La ville de Megève est son propre assureur pour le risque de perte d'emploi de son personnel non titulaire, c'est-à-dire les contractuels. Une collectivité locale a le choix entre cette auto-assurance qui induit le paiement direct de l'indemnisation ou une adhésion à Pôle emploi et le paiement d'une cotisation. La situation actuelle d'auto-assurance conduit la ville à verser un montant supérieur au titre de l'indemnisation directe de ses anciens salariés à celui qu'elle verserait dans le cadre d'une cotisation. Si l'on ajoute les coûts cachés, gestion des documents individuels des personnes indemnisées, le coût est largement en faveur de l'adhésion. L'adhésion au régime d'assurance chômage étant enregistrée en URSSAF au niveau du CIREN, celle-ci vaut pour tous les établissements d'un même employeur public, y compris pour les établissements nouvellement créés. Donc vous avez le contrat d'adhésion là, qui est joint à la délibération. Donc vous êtes invité à autoriser Madame le maire à signer la convention d'adhésion au régime d'assurance chômage et imputer ses dépenses sur le budget au chapitre 012, fonction 020, nature 64-54. Ce contrat d'adhésion permet à la commune de faire quand même une belle économie, oui. Voilà.
Un montant de 40 000 euros à peu près, hein, je crois. Donc c'est une délibération qui vous a été présentée, qu'on a retirée. Et aujourd'hui, elle vous est représentée après avoir étudié toutes les propositions qui ont pu et comparaison. Et donc il en ressort qu'on a intérêt aujourd'hui à adhérer au régime d'assurance chômage plutôt qu'à payer, nous, le chômage de nos agents. Donc 40 000 euros d'économie. Donc des questions, des contre, des abstentions. Merci. Délibération adoptée l'unanimité. La délibération numéro 30, toujours dans le cadre des ressources du pôle ressources humaines et emploi et compétences, elle concerne le régime indemnitaire des astreintes. Jocelyne Co.
Il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés, ainsi que les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément au décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret numéro 2005-542 du 19 mai 2005 fixe les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. Il convient de préciser que l'astreinte est définie comme la période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. Article 2 du décret numéro 2005-542 du 19 mai 2005. En ce qui concerne les agents hors filière technique, les astreintes sont indemnisées ou compensées selon le régime applicable à certains agents du ministère de l'Intérieur, fixé par l'arrêté du 7 février 2002. Pour ce qui est des agents de la filière technique, les astreintes et les permanences sont indemnisées ou compensées selon le régime applicable à certains agents du ministère de l'Équipement, fixé par l'arrêté du 24 août 2006. Alors vous avez les différents articles, hein, l'article 1 qui correspond au motif de recours aux astreintes, l'article 2 et l'article droit qui concernent les personnels concernés. Et vous avez tous les détails dans le tableau qui est joint à la délibération. Alors, vous êtes invité à abroger la délibération numéro 2016-180-DEL du 21 juin 2016, instituer le régime des astreintes à partir du 1er avril 2018, autoriser Madame le maire ou son représentant à mettre à jour le règlement intérieur du temps de travail, et préciser que les crédits seront imputés sur le chapitre 12.
Des contre, des abstentions, délibération adoptée l'unanimité. La délibération 31, toujours dans le pôle ressources humaines et emploi et compétences,
Elle concerne un stage professionnel étudiant et l'attribution d'une gratification. Jocelyne Coe.
Alors là, je vais suivre le bon exemple de Madame le maire, parce que vous avez trois délibérations qui concernent des stages professionnels étudiants dans le cadre de leurs études supérieures à 2 mois avec attribution de gratification. Alors, la première concerne un stage dans le pôle Comévène, la seconde dans le pôle culture et vie de la cité, et la troisième au sein du palais Espace Forme. Donc, pour ces trois délibérations, je vous invite à décider donc d'attribuer les gratifications d'un montant de 3,75 € brut par heure réellement effectuée pour la période de stage qui sont notées sur les trois délibérations. Autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités correspondantes et indiquer que les crédits seront imputés sur le chapitre 12. Donc ça concerne les délibérations 31, 32 et 33.
Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée. Donc on va passer à la délibération 34, toujours dans le pôle ressources humaines, emploi et compétences. Et là, il s'agit du recrutement d'agents contractuels sur un emploi non permanent dans le cadre des besoins liés à un accroissement saisonnier et temporaire d'activité. Jocelyne Coe.
Alors, au terme de l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs et ou besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs. Alors la proposition, donc vous êtes invité à créer 2 postes à temps complet au sein du pôle FEE, donc un animateur ou stagiaire BAFA du 9 juillet au 18 août, un éducateur de jeunes enfants du 1er avril au 30 juin, créer 2 postes à temps complet au sein de la DGAE, un agent polyvalent pisteur-secouriste du 2 avril au 5 avril et un agent polyvalent conducteur d'amage du 2 avril au 8 avril. Ce sont des compléments de fin de saison. Oui, merci. Préciser que la rémunération des saisonniers se fera conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 24 janvier 2017. Autoriser Madame le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour faire face aux besoins saisonniers d'activité et ou d'accroissement temporaire d'activité précitée. Indiquer que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chapitre 012.
Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée. La délibération 35, toujours pôle ressources humaines, emploi et compétences. Et là, nous rentrons dans le tableau des emplois permanents. Jocelyne Coe.
Il est rappelé que les effectifs nécessaires au fonctionnement des services communaux font l'objet d'un état annexé au budget primitif voté par le conseil municipal, tableau régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution des besoins recensés, ainsi que des transformations résultant d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite à des concours de nomination en qualité de stagiaire, ainsi que de tout recrutement en vue de pourvoir toute vacance de poste permanent. Vous êtes invité à premièrement modifier le poste de animatrice poterie en animatrice, ensuite modifier les postes qui vous sont proposés dans le tableau. Hein. Je ne vous fais pas toute la lecture, vous en avez tout un tas. Mais c'est uniquement des changements de poste ou de grade, ou alors de personnel qui part soit en disponibilité ou qui part de la commune et qui sont remplacés. Et créer un poste de référent opérationnel voirie à temps complet à la DGAE, et ça c'est en mutation interne.
Voilà. Des contre, des abstentions ? Délibération adoptée à l'unanimité, et c'était la dernière délibération de ce conseil municipal.
J'ai juste un message de la part de Fabrice Claret ce soir, qui remercie Madame le maire et l'ensemble du conseil pour la rapidité et le nombre de commentaires.
Le pauvre. Il évitera de passer 3 jours avec le casque sur la tête. Bon, alors, cette séance est levée. Je vous rappelle simplement pour information les dates des prochains conseils municipaux. Celui du mois d'avril, il se tiendra le 24 avril. Et celui du mois de mai, le 29 mai. Voilà. Merci et bonne soirée. Au moins, il ne restera pas 3 jours avec le casque. Mais il n'y a pas de souci, mais j'ai envoyé un SMS. Attends, je vais demander après. Il m'a pas répondu. Oui. Fabrice, vous allez pouvoir. Oh.